C'est maintenant un peu le temps de pouvoir vous présenter un reportage que j'ai fait à la fin septembre quand je suis partie pendant une semaine à Bruxelles avec une délégation du mouvement Non à la haine. Et c'était une mission qui était exploratoire, donc on allait faire des activités, on parle d'ateliers, on parle de panels, on parle de tables rondes, de conférences, et c'était en partenariat avec les offices jeunesse internationaux du Québec qui ont monté une délégation de 10 jeunes qui étaient issus de plein de milieux différents, mais qui étaient tous en rapport avec justement le secteur interculturel. Et nous, à CKVL, vu qu'on fait de plus en plus de projets pour essayer de favoriser l'inclusion, on s'est dit on va aller participer et on va essayer de rapporter tous les beaux projets de ces jeunes-là, vous en parler un peu plus aujourd'hui. Et j'ai préparé un reportage, vous allez entendre quelques-uns des participantes, vous allez vous rendre compte que sur les 10, ça sera un peu impossible de faire parler tout le monde, mais on les remercie tous quand même d'avoir pris le temps de parler avec nous tout au long de la semaine. C'était un peu gênant, mais ils ont vraiment se sont prêtés à l'exercice. Et on a aussi la chance de parler avec Amal Amish, qui est la coordonnatrice du mouvement Non à la haine au Québec, qui était l'accompagnatrice du groupe. Donc à travers le reportage, vous allez pouvoir voir un peu quelles étaient les motivations des jeunes au début de la mission et qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était quoi leurs impressions au cours de la mission et à la fin, c'est quoi les projets qu'ils vont mettre en place directement au Québec.
Le mouvement contre le discours de haine est issu en fait de la campagne Non à la haine qui a été en fait lancée par le Conseil de l'Europe en 2013, dont la campagne a été lancée à la suite un peu de ce qui s'était passé en fait entre autres en Norvège lorsque un individu est parti sur une île et a décidé de massacrer à peu près 70 jeunes. Les raisons en fait il n'y a pas de raison, mais expliquant son geste d'une certaine manière et qui était rempli en fait de propos, tu vois, xénophobes, racistes et discriminatoires. Et donc, en fait, c'était devenu viral et il l'avait fait en ligne. Et donc, c'est pour ça qu'en fait est née la campagne. C'est qu'on s'est rendu compte que ça a un peu réveillé en fait aussi les consciences de beaucoup en se disant que le discours haineux, en fait, en plus de l'avoir hors ligne, on l'a également en ligne. C'est comme ça un peu qu'est né le mouvement. Et l'objectif, en fait, du mouvement, c'est vraiment de sensibiliser à la question du discours haineux, de sensibiliser à la question que certes, si on a le droit de pouvoir s'exprimer et que la liberté d'expression est un droit fondamental, on a aussi des responsabilités et des obligations. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut tolérer des discours haineux sous prétexte que ça pourrait être de la liberté d'expression. Donc, au travers du mouvement, ce qu'on essaie, c'est d'éduquer, de mettre en place des projets, des formations, des ateliers pour justement développer l'esprit critique, mais aussi, en fait, favoriser l'ouverture à l'autre. Le but, en fait, à la base de la mission exploratoire, je pense qu'un des objectifs principaux, c'était aussi de découvrir qu'est-ce qui se fait en matière de lutte contre le discours haineux. Donc, ça a été principalement tourné par rapport à la journée du 22 septembre, la journée relative à la question, justement, du discours haineux, de la radicalisation des jeunes sur Internet. On voulait vraiment que des jeunes québécois puissent, justement, aller à la rencontre d'intervenants, d'acteurs de terrain, et en même temps, entendre un petit peu qu'est-ce qui se fait, et voir, finalement, qu'est-ce qu'ils pourraient aussi prendre avec eux pour pouvoir l'utiliser dans leur quotidien, étant donné qu'il y avait différents profils en fait dans la délégation.
Salut, je m'appelle Kimberly Coulombe, je suis étudiante à l'UQAM au certificat en immigration et relations interethniques. Puis qu'est-ce qui m'amène ici à Bruxelles pour ce projet de mission d'études, c'est que je suis sur un projet d'une plateforme qui s'appelle amalgame.info. Fait que c'est une plateforme qui met de l'avant les opinions des personnes racisées ou des personnes issues de l'immigration. C'est ça, je suis venue ici un peu pour voir comment je pourrais créer un plan de modération de tout ce qui est commentaires haineux ou des messages haineux qu'on reçoit, voir comment est-ce qu'on peut gérer ça.
Qu'est-ce qui t'attirait particulièrement à vouloir travailler sur la problématique du discours haineux puis justement donner la parole à des personnes qui étaient racisées?
Mais honnêtement, sur la question des discours haineux, c'est plus les contre-discours ou en anglais on dit les counter-narratives, fait que les alter-narratives, je pense que ça se traduit en français. C'est plus ça qui m'intéresse de comment est-ce qu'on peut en fait finir par ne pas parler des discours haineux pour avoir une approche, je sais pas, plus positive à la question des discours de haine, dans le fond.
Aimer les discours de haine ou...
pas aimer les discours de haine, mais au lieu de parler de haine, de parler de je sais pas, de l'opposé dans le fond, de pas nécessairement d'inclusion ou de l'incompréhension, mais honnêtement, j'ai pas encore la réponse, fait que c'est un petit peu pourquoi je suis ici à Bruxelles.
Je m'appelle Anne et je suis étudiante à Laval, mais je suis aussi chargée de projet de l'initiative L'un l'autre que j'ai cofondée avec 10 autres étudiants de l'Université Laval il y a environ 6 mois. Puis c'est une initiative sur les réseaux sociaux qui vise en fait à déconstruire les préjugés à l'endroit des immigrants, des réfugiés, des autochtones aussi, et à générer un dialogue interculturel parce qu'à Québec, il y a un manque d'exposition en fait accès à la diversité. Donc, moi, par exemple, j'ai grandi dans la banlieue de Québec et puis c'est pas avant l'âge de 18 ans, lorsque je suis rentrée au cégep, que j'ai vraiment été confrontée à la diversité. Puis ça a été vraiment comme un gros choc dans ma propre ville. Donc, j'ai été sensibilisée à cet enjeu-là et puis on a décidé de fonder cette initiative-là qui est en voie de devenir une association étudiante. Puis on a été financée par Facebook, notamment pour permettre l'émergence de notre projet.
Spécifiquement dans la mission à Bruxelles, qu'est-ce que tu voulais venir chercher?
Bien, premièrement, je voulais partager l'expertise que j'ai eue jusqu'à maintenant dans mon projet, mais aussi rencontrer des personnes qui œuvrent dans le même sens que moi, puis voir qu'est-ce qui se fait d'autre. Et puis, c'est ça, me former, en apprendre davantage. Je suis une personne curieuse de nature, donc voilà.
Bonjour, je m'appelle Martine Lheureux, je suis agente de projet chez Accent interculturel pour le projet Dialogue Plus, qui est un projet qui vise à prévenir les discriminations, l'exclusion et la radicalisation chez les jeunes. Le projet Dialogue Plus, il est basé à Sherbrooke depuis janvier 2017, mais le projet est aussi dans 4 autres villes, donc à Québec, Ottawa, Hamilton et Moncton. Donc c'est un projet qui est pan-canadien. C'est le projet Recherche Action, avec un sondage pour voir la perception des Canadiens sur les discriminations et la radicalisation. Et par la suite, dans chacune des villes, il y a un comité de jeunes en action. Ce sont des jeunes leaders de 15 à 30 ans qui ont envie de se mobiliser pour favoriser un peu le vivre ensemble, prévenir les discriminations, puis instaurer un dialogue entre les communautés. La mission, c'est vraiment utile pour mon projet. Je travaille avec un groupe de jeunes sur ces questions-là, donc c'est une occasion de pouvoir me former, d'aller voir un peu ailleurs qu'est-ce qui se passe dans le monde sur ces sujets-là, de voir qu'on n'est pas tout seul avec ces problématiques-là dans notre ville, mais qu'on est beaucoup à partager dans le monde des problématiques de mobilisation sur la radicalisation, la discrimination, le dialogue interculturel. Donc, c'est vraiment très intéressant.
Mon nom, c'est Marc-Claude Touzin. Je suis intervenante au projet École au CGE au Carrefour Jeunesse Emploi à Trois-Rivières avec une clientèle décrocheurs qui retourne à l'école. Et je connais Logique parce qu'en fait, avant, ils étaient partenaires avec nous au Carrefour pour un projet qui s'appelait Eldorado qui amenait de nos jeunes décrocheurs en fait faire un stage au Guatemala. J'ai continué à suivre leur projet. Puis ce projet-là m'interpellait particulièrement parce que avec nos jeunes, on se rend compte qu'il manque beaucoup en fait d'éducation par rapport à ça. J'ai le goût d'aider, en fait, j'ai le goût de les amener à développer ça. C'est retour à l'école, fait que c'est beaucoup français, anglais, maths, des matières de base, mais tu sais, au niveau d'apprendre à réfléchir, apprendre à être capable de faire la différence entre je sais quelque chose et je crois quelque chose. Tu sais, souvent, nos jeunes sont beaucoup là-dedans, tu sais, connaître et savoir, c'est pour eux, c'est la même chose, alors qu'ils vont pas se renseigner, ils vont pas savoir si c'est vraiment vrai. C'est leur oncle, leur ami qui leur a dit que, par exemple, les immigrants volaient notre job, là. Tu sais, on est beaucoup là-dedans avec eux, là. Fait qu'on essaye d'aller au-delà des matières de base, puis de, tu sais, pour moi, l'éducation, ça va au-delà de ça, là.
Moi, c'est Roxane Loca. Je suis directrice de la Maison des jeunes Le Cabanon de Lac-Beauport, qui est une municipalité au nord de Québec. Et puis, dans le fond, nous, on fait partie du regroupement des maisons de jeunes de Québec, donc qui inclut 28 maisons de jeunes différentes. On est en intervention avec les jeunes, c'est un milieu volontaire. Puis les jeunes viennent chercher un peu d'éducation citoyenne là, à la Maison des jeunes, un peu apprendre les bases de la vie. Puis tout ça passe par une intervention informelle puis par le loisir.
Et qu'est-ce que tu voulais venir chercher comme apprentissage pendant la mission en Belgique?
En fait, ce qu'on a planifié, c'est qu'il y a une formation auprès des intervenants des 28 maisons de jeunes. Donc, à peu près une cinquantaine d'intervenants qui œuvrent directement auprès des 12-17 ans pour venir leur parler du mouvement Non à la haine, puis essayer de partager là, ce que je vais apprendre ici en Belgique, tout ce qui est à propos de la radicalisation. Même chose que ma collègue parlait tout à l'heure de Québec, que c'est très, très peu développé au niveau de la diversité culturelle. Donc, apprendre aux jeunes qu'est-ce que c'est, démystifier les choses, puis essayer d'enlever les préjugés puis les tabous.
Mais justement, quand vous avez intervenu directement avec les jeunes, est-ce que vous pourriez me donner un exemple de comment vous avez vu que c'était un besoin?
Moi, j'ai un de mes jeunes à la Maison des jeunes qui, quand j'ai expliqué que je m'en allais en Belgique faire ce que je faisais, je comprenais pas du tout pourquoi que j'allais prendre 6 jours de temps de travail de la Maison des jeunes pour aller le donner aux immigrants qui de toute façon volent nos emplois. Donc c'est un discours très qui vient de la famille souvent, qui est transposé dans nos organismes et qui amène vraiment une certaine barrière parce que dans beaucoup d'arrondissements de Québec, il y a peu de diversité culturelle. Comme dans la municipalité où est-ce que moi je travaille, là, il y a aucune diversité culturelle. Donc c'est très très éloigné comme concept. Donc essayer de ramener ça un peu plus là, auprès des jeunes.
Moi, c'est Dina. Je suis étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UDM. Qu'est-ce qui m'a amenée à m'inscrire à ce projet-là? Je suis assez engagée tout ce qui est en lien avec l'intégration des immigrants, des minorités culturelles, tout ce qui est en lien qui touche avec l'immigration. Puis, je suis ici de la minorité culturelle aussi. Donc, j'ai trouvé que le projet m'interpellait et je me suis dit, j'aimerais ça en apprendre plus, surtout dans un autre pays, dans un autre contexte. Puis je trouve que c'est un problème global qui se retrouve localement aussi.
D'ailleurs, est-ce que les problématiques de la diversité, ça va être un sujet que tu vas vouloir aborder dans ta maîtrise?
Oui, justement. Je veux parler des femmes immigrantes au Québec, puis notamment les femmes musulmanes et arabes. Je trouve que il y a beaucoup de questions. En ce moment, c'est très polémique, tout ce qui est en lien avec la discrimination. On a déjà vu dans plusieurs rapports comme quoi les femmes sont plus... les femmes en général, pas seulement les minorités culturelles, mais elles ont plus de difficultés à s'intégrer, mais à être acceptées dans la société, disons-le, entre guillemets. Puis c'est ça.
Un peu les intersections entre son identité de femme et son identité de personne de minorité. Je sais jamais comment vraiment quel terme utiliser.
Moi, j'utilise minorité culturelle. Je trouve que ça fait pas péjoratif. Puis ça englobe plusieurs formes d'intersectionnalité.
Par rapport aux ateliers en fait qu'on a choisi de mettre en place, on a vraiment essayé d'aborder un peu les différentes thématiques qui, d'une certaine manière, sont comment dire des thématiques actuelles pour la jeunesse québécoise. Donc, si je me souviens bien, tu avais par exemple l'atelier sur le racisme anti-noir. Au niveau, on sait qu'au niveau Québec, il y a aussi cette question du racisme systémique, cette question aussi du racisme envers les personnes noires. Donc, c'était l'idée aussi de, j'ai envie de dire, de comparer un peu la méthodologie qui est utilisée en Belgique, en ressortir quelque chose de plus riche et qui permette justement de mieux éduquer. Tu avais aussi eu l'atelier relatif à l'islamophobie, par exemple, sachant que l'islamophobie est assez croissante et en augmentation en Europe et qu'on a pu voir que voilà, ici au Québec, c'est également présent, l'idée c'était aussi de pouvoir partager les bonnes pratiques. Les bonnes et les mauvaises, enfin. Quand je dis mauvaises pratiques, entendons bien qu'il s'agit principalement de se dire, on a mis en place un outil mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc l'idée c'est de voir pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. La mission exploratrice, c'était vraiment d'une certaine manière, c'était outiller les jeunes pour que justement ils fondirent leur expertise et acquérir plus de compétences. Et puis, entre autres, un des autres objectif que les différents jeunes étaient impliqués dans différents secteurs, dont l'idée c'est que eux-mêmes en fait deviennent ambassadeurs du mouvement et donc finalement deviennent autonomes.
Pourquoi on envoie des gens à l'étranger pour apprendre sur le discours de haine quand on a très bien ici puis il y a des choses qui se font ici? Tu sais, c'est quoi l'idée derrière le partenariat un peu là?
Certes, il y a du discours haineux ici, il y a des organismes qui travaillent aussi, mais ce qu'il faut partir du principe, c'est que aussi le discours haineux, c'est sur base de la peur de l'ignorance, enfin, c'est l'ignorance, tu vois, dont les gens sont ignorants, certaines personnes ne savent pas les choses, en fait, ne savent pas que derrière la diversité, il y a toute une richesse et que c'est pas forcément de la diversité, les gens viennent et qu'ils veulent exploiter ou profiter du système. Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est aussi de voir que finalement, une problématique qui est présente l'est également dans d'autres pays. Peut-être pas forcément sous la même forme, peut-être pas les mêmes raisons, mais au final, on a la même problématique, c'est-à-dire que les discours haineux, les discours populistes sont en augmentation et ce, peu importe où on va. Donc l'idée d'envoyer les jeunes à l'international, c'est justement pour pouvoir confronter un peu, j'ai envie de dire, leur réalité à d'autres réalités. Le mouvement, en fait, est coordonné par les offices jeunesse internationaux du Québec, c'est justement de favoriser la mobilité internationale. Donc, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, on a pu, en fait, profiter de ce partenariat privilégié pour justement avoir la possibilité d'utiliser les ressources des offices pour favoriser la mobilité internationale des jeunes et leur donner l'opportunité d'aller à l'international.
Question en général, qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une réflexion qui a été particulièrement suscitée aujourd'hui?
Ben, moi, c'est l'importance de développer l'esprit critique, en fait, chez les jeunes, que je trouve qu'on n'a pas tant au Québec. Tu sais, on parle beaucoup de combler les besoins sociaux et tout ça, mais on parle pas beaucoup de développer l'esprit critique. Puis ici, ils font des liens entre tout ça, puis je trouve ça super intéressant parce que faire la banque, ça va combler les besoins psychosociaux, tu sais. Fait que pourquoi pas faire les deux en même temps?
C'est super. Est-ce que tu peux élaborer sur les besoins psychosociaux?
pour une personne comme moi qui n'est pas de même milieu communautaire,
oui. C'est la base de tout ça, c'est apprendre à se connaître, la connaissance de soi, je suis qui, moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, ces choses-là. Il y a des jeunes qui ne savent pas c'est quoi leur goût. Des femmes comme ça, je leur demande c'est quoi vos valeurs, ils ne sont même pas capables de me nommer une valeur importante pour eux, c'est la base. Fait que, en développant l'esprit critique, tu développes aussi la connaissance de ça, parce que là, tu sais qu'est-ce qui me... c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui me confronte. Fait que, on fait les deux en même temps.
La radicalisation pour les jeunes en ligne, la discrimination, c'est des problèmes vraiment larges, c'est des problèmes complexes, c'est des problèmes qu'on voit à la grandeur de la société. D'après toi, qui côtoie les jeunes tous les jours, c'est quoi l'importance de partir de la base, de parler de ces causes-là qui peuvent parfois être très complexes directement avec des jeunes?
Bien, je pense qu'à la base de toute radicalisation vient des opinions qui parfois peuvent partir de l'inconnu, d'un préjugé ou de seulement que quand tu ne connais pas l'autre, tu vas souvent la juger. Souvent, les jeunes au secondaire sont pris avec l'intimidation, donc je vois à peu près le même parallèle avec la radicalisation, puis peut-être si on pousse ça au racisme. Donc, en les prévenant dans un travail de diversité culturelle, puis de leur apprendre qu'on est tous pareils et de vivre ensemble, ça peut peut-être venir désamorcer certaines zones grises que certains jeunes avaient. Voilà, donc je pense que ça peut vraiment venir aider. Puis ensuite de ça, bien, s'il y a des jeunes qu'on voit qui sont peut-être plus dans le orange vers la radicalisation ou qui est au rouge, bien... de peut-être venir désamorcer les choses puis que ça aille mieux, finalement.
Si vous aviez un peu à décrire, d'après vous, c'est quoi comme le rôle d'Internet dans la radicalisation? C'est quoi les enjeux de la radicalisation? Là, je le lance vraiment en large, mais dans les trucs que vous avez appris aujourd'hui ou que vous comprenez. Mais si je peux y aller, je pense que ce qui est ressorti beaucoup, c'est la question de l'exclusion, du fait que quelqu'un soit discriminé, ne soit pas représenté dans la société, cette personne-là se sent exclue. Fait, où est-ce qu'elle va retrouver son identité? Ben, c'est dans la radicalisation, dans des groupes radicalisés. Dans les panels, on parlait justement du fait d'être exclu comme étant instigateur de radicalisation, mais on se disait que c'est peut-être pas la seule chose, qu'il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui amènent les jeunes à être radicalisés, dont peut-être le fait d'être solitaire ou dans le fond que ce qu'on présentait dans le panel, pas qu'on trouvait ça problématique, mais qu'il y avait peut-être autre chose que juste le fait d'être discriminé.
C'est un raccourci intellectuel. Le fait de dire que tout d'un coup, il s'est radicalisé du jour au lendemain, faut pas oublier que souvent, c'est des gens en situation de vulnérabilité. Donc, c'est ça. Par exemple, moi, je suis issue d'une minorité culturelle, mais c'est pas parce que je me sens parfois discriminée que ça veut automatiquement venir dire au fait que « Ah, je vais me radicaliser contre telle société parce qu'on m'inclut pas ». Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui vont pas forcément se radicaliser. Il y a aussi le partage de discours, le partage de connaissances. Il y a aussi le dialogue qui existe. Donc, je pense que c'est un phénomène qu'il faut, oui, le prendre en compte, mais il faut comprendre aussi le contexte de radicalisation.
Qu'est-ce que tu as pensé de l'atelier sur l'islamophobie et celui sur la négrophobie? Qu'est-ce que tu en tires un peu de ces ateliers-là qui nous ont permis de voir une discrimination plus spécifique? Comment on l'adresse quand on veut essayer de faire justement la promotion de la diversité puis dans des enjeux spécifiques de discrimination? Puis comment on fait pour ne pas perpétuer des stéréotypes? Moi, c'est un peu ça que je me demande.
Il faut considérer l'islamophobie, le racisme à différents niveaux, en fait. Par exemple, il peut y avoir un racisme systémique dans la société, mais il peut y avoir aussi un racisme qui est beaucoup plus subtil que, dans le fond, une personne qui n'est pas concernée, par exemple, une personne qui n'est pas noire, ne va pas nécessairement reconnaître cette forme de racisme-là en public. C'est vraiment complexe parce qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions, puis je pense que moi, par exemple, ben, l'initiative que j'ai créée, au départ, on n'était pas sûr si ça allait fonctionner, mais on s'est dit... Peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça va pas fonctionner, peut-être que ça va pas avoir tant d'impact que ça, mais peut-être que ça va avoir un bel impact. Puis l'affaire, c'est juste d'essayer quelque chose. Puis je pense, nous, en fait, notre idée, c'était au départ de donner, d'offrir une tribune à des gens qui sont concernés par certains enjeux de société, mais qui sont pas questionnés sur ces enjeux-là, mais qui ont un besoin de s'exprimer. Donc au départ, c'était des immigrants, des réfugiés, des autochtones. En parlant avec différents experts, des différents intervenants, ils nous ont dit « Soyez pas exclusifs, essayez d'avoir le maximum d'opinions possibles, en fait, sur les enjeux que vous abordez. Parce que c'est ça la société, les gens ont différentes opinions, les gens ont des opinions contradictoires et so what. L'important, c'est qu'ils soient exprimer dans le respect, puis dans un esprit d'ouverture.
Pour la suite, ce qu'on attend en fait des jeunes par la suite, c'est que tout simplement, tu vois, ils s'engagent d'un point de vue citoyen, tu vois, ils s'impliquent, qu'ils mettent en place eux-mêmes des projets. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte, comment dire, il y ait plus de projets d'engagement citoyen, il y ait plus d'actions pour justement favoriser le respect, favoriser la diversité, tu vois, le respect des droits humains. Donc c'est ce qu'on attend d'une certaine manière des jeunes. Donc l'idée de ce mouvement, c'est pour ça que c'est un mouvement rassemble tant des organismes que des individus. On peut pas compter que sur des organismes pour lutter contre le racisme, par exemple. Il doit d'abord toucher l'individu avant de toucher la grosse organisation.
Donc, chère Roxane, après presque une semaine à Bruxelles, plein de rencontres, si je comprends bien de ta part, qu'est-ce que tu crois avoir appris? Qu'est-ce que tu ramènes au Québec avec toi?
Ben moi, c'est sûr que la campagne Non à la haine, c'est un programme qui est facilement exportable au Québec parce que, définitivement, la campagne est déjà au Québec, mais je dirais qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées de projets me sont venues, des vidéos avec les jeunes, la campagne, une campagne de photos, l'implication de plusieurs milieux avec lesquels je travaille au Québec avec les maisons de jeunes. Donc, je pense fondamentalement que ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a donné beaucoup d'idées aussi.
Est-ce qu'il y en a une qui t'avait marqué en particulier?
Moi, j'ai bien aimé la campagne vidéo. C'est quelque chose qui est revenu de plus en plus à travers nos différentes journées. Donc, un projet de vidéo avec les maisons de jeunes, puis les liens qu'on peut faire avec l'identité, puis peut-être la diversité culturelle, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Puis, c'est sûr et certain aussi que j'ai rencontré une maison de jeunes de Namur, et puis avec eux, l'échange avait été très, très cool à propos de faire peut-être un échange entre nos deux MDJ. Donc, ça aussi, c'est un projet là, que je vais me mettre dès mon arrivée au Québec là, à écrire à mes nouveaux collègues.
Oui, en plus, tu as un grand réseau, là, donc tu vas pouvoir comme partager toutes les bonnes idées que tu as eues cette semaine.
Ouais, en fait, avec mon réseau de 28 maisons de jeunes, le RMDJQ, donc le regroupement des maisons de jeunes de Québec.
Enfin, qu'est-ce que tu as retenu de la semaine en premier?
Moi, premièrement, je suis venue ici pour me former, pour partager des bonnes pratiques pour prévenir la radicalisation. Au Québec, je voulais voir tes différentes approches dans un pays différent avec des gens qui ont des backgrounds différents. Puis, en fait, ce que je retiens de la semaine, ben, essentiellement, c'est que ça vient confirmer le fait que jusqu'à maintenant, puisque mon initiative avec les autres membres de mon équipe, bien évidemment, tu sais, on est sur la bonne voie. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais on fait bien les choses. On a une initiative qui est positive. J'ai appris des choses. Je dirais que ce que je retiens, c'est d'apporter beaucoup plus de nuances dans mon approche. Par exemple, au niveau de l'intersectionnalité. Donc, quand je considère, par exemple, l'islamophobie, de pas juste voir l'islamophobie, mais aussi peut-être le sexisme. Donc, de pas juste considérer un type de phobie, mais plusieurs. Qui peut s'appliquer à une même personne. Considérer l'individu avec selon une multitude de perspectives, puis les différentes discriminations en fait qui peuvent s'appliquer à cet individu-là. Donc, par exemple, une femme musulmane peut se faire discriminer parce qu'elle est musulmane visible à cause qu'elle porte, par exemple, le foulard, mais aussi elle peut se faire discriminer à cause qu'elle est une femme.
Donc l'idée de ce mouvement, c'est vraiment de faire en sorte qu'il soit rassembleur. Peu importe, d'une certaine manière, dans quelle catégorie tu ferais partie. Nous, on ne veut pas qu'il y ait de catégorie, justement, parce que la thématique touche tout le monde, en fait. Et donc, par rapport aux jeunes, l'idée, c'est vraiment que lui-même, en fait, soit responsable de ses propres actions et que lui-même, en fait, prenne conscience peut-être de ce qui ne va pas, par exemple, dans sa propre communauté et qu'il se dise, ce serait chouette de peut-être réaliser telle ou telle action positive.
Donc, c'était mon reportage que je vous ai rapporté en direct de Bruxelles. Une semaine d'enrichissement, de conférences sur la négrophobie, l'islamophobie, mais aussi sur comment est-ce que des jeunes se radicalisent en ligne et essayer un peu de défaire les stéréotypes, les tabous. Donc, ça a été vraiment très intéressant. Puis, je me remercie tous les participants et participantes qui ont contribué au reportage que vous avez entendu, et surtout Amal Amiche, qui était la coordonnatrice du mouvement Non à la haine au Québec, qui essaie vraiment de s'implanter au Québec parce qu'à la base, c'était un mouvement qui était européen et qu'on essaie d'aller à travers le monde. Donc, on parle d'un mouvement, pas d'un réseau d'associations, mais juste l'idée que tout le monde est là pour promouvoir des valeurs d'inclusion et de respect.